Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après le petit week-end de repos de la semaine dernière. Hein. Alors on pourrait presque être tout en bleu hein, ce lundi, puisque on va naturellement revenir avec donc Alexandre dans le journal de sport sur ce bon week-end du sport français. Hein. Le rugby et le foot qui gagnent le même week-end, on en est ravi. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir hein à tous.
Voilà. Et puis comme nous sommes complètement en émission Omnisport, eh ben on parlera aussi des sports même le plus méconnu comme le parachute. Avec notre invité Olivier Leron. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Ouais, président du comité régional. Hein.
Île-de-France.
Île-de-France, oui. C'est ça. Ouais. Très bien. Et puis, elle fera bientôt ses débuts à l'antenne dans Mon Paris Santé. Elle est venue nous parler de ce qui va se passer pour le Téléthon à Paris les 29 et 30 novembre. C'est Virginie. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Philippe.
Ça va, pleine forme ?
En pleine forme.
Ouais, prêt pour le Téléthon.
Bah, il faut, hein, à 15 jours, c'est le grand
voilà
week-end. Donc,
voilà. Et puis naturellement, elle est là aussi tous les lundis. Hein, c'est notre acolyte Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Tout va bien ?
Très bien.
Très bien. Ok. T'as vibré ? T'as pas mis le maillot de l'équipe de France, là ?
Ah oui,
bleu, là.
Je l'ai laissé à la maison, mais j'ai vibré.
Voilà, c'est ça. Très bien. Allez, on parlera aussi MMA, hein, puisque dans la deuxième partie, on ira voir un petit peu un jeune hein, de l'écurie de M. Nicou, hein, qui viendra, Mathieu Nicourt, qui viendra donc, qui défendra et qui combattra samedi pour son écurie. Donc, il viendra nous en parler. Et puis, on aura le point foot avec notre ami Stéphane Desenclos en même temps. Et comme je l'ai dit, on va commencer par parler parachutisme. Olivier, bonsoir. Donc, pourquoi le parachutisme dans votre vie ? Comment c'est arrivé ?
Alors, c'est arrivé assez tôt, en fait. Quand j'étais enfant, dans les émissions de jeunesse,
oui,
j'ai vu plusieurs fois des reportages sur des tentatives de records oui, de grandes formations.
Oui.
Et c'était dans les années 80, et ça m'a bien accroché.
Oui.
Et je me suis renseigné en étant adolescent après sur comment pratiquer. Donc je m'étais carrément rendu jusqu'à la fédération pour prendre des renseignements. Et j'étais encore un peu trop jeune. Et c'est arrivé à la fac où, dans les sports, j'ai vu qu'il y avait parachutisme.
D'accord.
Okay. Et là, j'ai dit bingo.
D'accord. Il n'y a jamais eu d'appréhension ?
Si, bien sûr. Si, si. J'avais jamais pris l'avion en plus.
Ah bon, en plus ?
Oui.
Véritable baptême de l'air.
Ouais. Tout en même temps, voilà.
Ouais.
Mais l'appréhension, elle est forte. Elle fait partie du jeu, même, je dirais, au départ.
Ouais.
Et même après. Mm-hmm. Quelque part, ça reste quelque chose de conservateur. De,
oui,
de
et c'est nécessaire, attention, même, pour être prudent, pour bien voilà, respecter
exactement
les consignes.
Hein. Ouais. Ouais, ouais. Mm-hmm. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça à la fac et d'accord, ça m'a pris et puis bah, j'y suis toujours.
D'accord. Et donc, toute une vie, j'allais dire, consacrée au parachutisme.
Voilà, tout à fait. Donc, aussi bien la pratique à titre personnel qu'aujourd'hui d'enseigner ou de diriger différents organismes pour faire perdurer l'activité aussi bien en Île-de-France qu'au niveau national.
Et comment on en vient président du comité d'Île-de-France, justement ?
On s'implique petit à petit, comme ça, au niveau du club. On gère l'activité. Mm-hmm. Et puis après, on représente le club au niveau régional. Et puis un jour, quand l'association au niveau régional ne va pas très fort, on se mobilise et puis on accepte de prendre des responsabilités et on devient président.
D'accord.
Et voilà, c'est parti. Ça fait déjà un paquet d'années.
D'accord. Alors, comme je l'ai dit donc, en préambule, hein, émission de tous les sports, donc comment va le parachutisme sur l'Île-de-France et sur Paris ? Est-ce que quand on habite Paris et l'Île-de-France, c'est un sport qu'on peut pratiquer, j'allais dire, très facilement ?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué, forcément, que dans d'autres régions, parce que tout le monde sait qu'avec les aéroports, l'espace aérien est très mobilisé.
Et très réglementé en plus. Hein.
Voilà, tout à fait. Ce qui nous n'empêche pas d'avoir quand même une vingtaine de clubs sur l'ensemble du territoire, sur l'île
D'accord.
de France.
Ouais. Quels sont les départements phares les plus importants?
Paris, quand même, avec
Paris
des très
ah ouais
gros clubs. Par un club de Paris, notamment.
Oui.
Le club dont je m'occupe aussi, le club étudiant où j'ai démarré
D'accord.
à l'époque.
Ouais, ouais.
Voilà, il y a beaucoup de clubs. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a aussi des clubs corporatifs, notamment de l'époque de DFGDF, club de la Nègre.
Oui. Mais alors, où est-ce qu'ils peuvent pratiquer leur sport dans Paris quand même? Où est-ce qu'ils trouvent l'endroit et la place nécessaire? Parce qu'on ne les voit pas sur Paris.
Non, effectivement, les sauts sur Paris sont très rares, mais il y en a peut-être une fois par an, ne serait-ce qu'au ouais. 14 juillet.
Ouais.
Ah bah, mais oui. après, les possibilités, c'est notamment de suivre des cours théoriques à Paris. Et puis, pour aller sauter, on part le week-end et on va sur différents centres. En dehors de la région parisienne, mais on a à 100-150 km les premiers centres de pratique qui sont accessibles.
D'accord. Et on connaît les endroits, on sait où
Oui, alors je peux en
citer. C'est pour le grand public. Hein. Ouais.
Je ne veux pas faire de jaloux,
ouais,
mais
ouais.
on a Orléans qui est assez proche, Frétois, Péronne.
Ouais.
Après, je prêche pour ma paroisse, mais on a Maubeuge, Lille.
D'accord.
Enfin voilà, on a une cinquantaine de centres-écoles de parachutisme en France, donc il y a quand même une facilité importante pour aller sauter d'avion.
Alors, voilà. Si on veut faire du parachutisme, que fait-on? D'abord, est-ce qu'il faut un certain âge? Est-ce que par exemple, si on a 8 ans, on veut déjà faire un peu de parachutisme? Est-ce que c'est possible?
Alors aujourd'hui, oui, avec une activité dont on n'a pas encore évoqué, mais c'est le vol en soufflerie. Qui a permis d'ouvrir en fait la pratique sportive qui était limitée avant à 15 ans minimum à des jeunes. On a expérimenté à partir de 2005 au niveau des souffleries. Il y avait une seule soufflerie à Paris, mais la soufflerie à Aérocart. Et des enfants de parachutisme ont commencé les vols comme ça en indoor à partir de 5 ans. 5 ans, 8 ans, ça se fait très bien.
Oui.
Et donc aujourd'hui, on a même des équipes de jeunes comme ça qui font de la soufflerie entre l'âge de 5 à 15 ans et puis qui basculent progressivement, pour certains, sur le saut d'avion.
Mais ça, c'est nécessaire. On peut pas tout de suite aller sauter. Moi, si je veux faire du parachutisme, on ne va pas me dire « tu vas tout de suite sauter ».
Pourquoi pas?
Ah bon?
Oui,
ah bon
tout à fait. Ah bon, on a plusieurs méthodes de découverte. Alors,
ouais.
On a ce qui est le plus connu, le saut qu'on appelle en tandem, le saut en biplace, en fait.
Ouais.
Qui est vraiment le saut découverte de base pour tout le monde. Et après, pour les gens qui ont vraiment envie de continuer ou qui sont peut-être plus casse-cou d'emblée, on a la possibilité aussi de sauter tout seul. Donc ça peut être tout seul. Alors soit, au minimum, on a un moniteur dans l'avion. Et ça peut être un moniteur à 1200 mètres où le parachute est attaché à l'avion et s'ouvre tout seul.
Ah oui, parce que j'allais dire, il y a quand même des consignes à respecter.
Voilà,
et ça s'apprend fatalement. Il faut des heures et des heures d'entraînement.
Alors des heures, il faut démarrer la formation le matin. On arrive au hangar le samedi, par exemple, à 8h30. On suit la formation jusqu'en milieu d'après-midi. Et puis, on peut faire, si la météo est correcte, un saut en ouverture automatique dans la foulée. Ou l'autre méthode, c'est le saut accompagné à 4000 mètres avec deux moniteurs qui vous tiennent. Donc les deux moniteurs sont dans l'avion et aussi en chute libre jusqu'à l'ouverture du parachute. Et là après, sous le parachute, c'est l'étape où on est tout seul.
D'accord, ok. Donc ça veut dire que quel que soit l'âge, on n'a pas obligé de passer par la soufflerie, suite on saute quoi.
L'âge n'est pas un obstacle. La soufflerie, ça permet d'ouvrir à des gens plus jeunes. Ça permet aussi de faciliter, d'avoir moins d'appréhension si la personne, elle veut faire après du saut en parachute même, donc d'avion. Mais ce n'est pas un passage obligé.
D'accord.
Voilà. C'est vrai que d'expérience, aujourd'hui, des gens qui ont fait un peu de soufflerie avant ont un peu plus de facilité, c'est plus naturel, mais ce n'est pas indispensable. Et historiquement, la soufflerie n'existe, on va dire, depuis 20-25 ans. Et par contre, le saut en parachute, ça existe depuis plus de 200 ans. Donc,
voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, on en parlait hors antenne, ce n'est pas réservé qu'aux militaires. Hein.
Non, pas du tout. Alors, c'est les premiers sauts en parachute ont été faits par des civils. Ça a été récupéré effectivement à une époque par les militaires. Ils ont leur propre activité qui, pour moi, est plus une activité de parachutage, en fait, que ce soit du matériel ou du personnel. Et puis nous, ben, on est vraiment dans une démarche sportive, un geste sportif, un entraînement pour pratiquer, pour se faire plaisir et éventuellement aller chercher aussi la performance. Oui, c'est une des possibilités. Quelqu'un qui pratique régulièrement, il peut s'orienter vers la compétition ou plus tard vers tout ce qui est monitorat, en fait, pour former les futurs pratiquants, compétiteurs.
Mais c'est un sport à la portée de toutes et de tous.
Voilà, alors il n'y a Je dirais, la seule contre-indication, c'est les personnes qui ont
des problèmes cardiaques.
La luxation d'épaule.
Ah bon ?
Ah oui.
Ouais. D'accord. Oui, mais le gros problème, alors aussi bien soufflerie que saut d'avion, la grosse difficulté, c'est que si la personne se déboîte l'épaule, ça devient compliqué, notamment le saut d'avion. On a déjà eu des cas. Manœuvrer un parachute avec une seule main, c'est pas évident.
Peut-être parce qu'il y a la pression quand on se lance qui repose forcément sur le haut du corps, non ?
Voilà, exactement. Il y a de l'air sur toute la surface du corps et au début, on n'a pas trop l'habitude et ça force beaucoup sur les bras.
Justement, est-ce qu'il y a un entraînement spécifique qui est fait en dehors, bien sûr, juste des sauts ? Vous disiez qu'il y avait une préparation théorique, mais peut-être est-ce qu'il y a des activités sportives parallèles qu'on pratique pour être...
Alors, c'est bien, c'est sûr que quelqu'un qui est plutôt sportif, qui va faire d'autres sports à côté, va avoir une facilité supplémentaire. Mais en soi, ce n'est pas un critère pour dire, toi, tu peux sauter ou pas.
Non, bien sûr, mais je me disais, est-ce qu'il y a peut-être un travail qui peut être fait parallèlement
La soufflerie, c'est tout, non ?
Éventuellement la soufflerie, mais moi, quand j'ai démarré, on faisait un peu d'échauffement sur des cours théoriques, c'était plus histoire de dire. Ouais. Aujourd'hui, on en fait plus sur les cours.
Et quel que soit le poids, la taille, c'est pas un problème.
Il y a quand même forcément, il y a une limite de poids. À partir de 90 kilos, ça commence
c'est
à devenir
compliqué
à la fois pour la résistance du parachute, en fait. Ouais. Il peut pas non plus prendre n'importe quelle charge en dessous. Et les performances aussi à l'atterrissage, c'est sûr que pour un parachute de débutant, on va aussi bien le donner à quelqu'un qui fait 50 kilos que quelqu'un qui va en faire 90. Mais forcément, les performances en termes de vol et la vitesse à l'atterrissage ne sont pas les mêmes.
Oui, parce qu'on est à quelle hauteur quand on saute ?
Alors, le minimum, c'est à peu près, on va dire, autour des 1000 mètres, 1200 mètres en école, jusqu'à 4000 en pratique habituelle, on va dire. Après, ponctuellement, on peut avoir des sauts à 6000, voire 8000 mètres. Ça se fait. On a des séances tous les ans de sauts à 8000 mètres, avec oxygène dans l'avion et en l'air.
D'accord.
On a des personnes avec des masques, de cosmonautes presque. Ouais. Et ça se fait très bien.
La chute dure combien de temps ? Par exemple, à 1000 mètres ?
Alors, à 1000 mètres, c'est très court, puisque la hauteur d'ouverture est censée être à 850, on est censé déclencher l'ouverture. Ouais. Mais sur un saut standard aujourd'hui où on saute à 4000 mètres, on a à peu près 60 secondes de chute libre.
D'accord, 60 secondes. Ah oui, donc ça va très vite.
Ça paraît très court.
Ça va très vite quand même. Ouais.
Quand on est en l'air, en 60 secondes, on ne se rend pas compte au début, mais on peut faire énormément de choses. Et le cerveau est capable de gérer à la fois le corps et la mémorisation, puisque forcément, on fait des figures, on a comme une chorégraphie en fait. Il faut la restituer, donc se souvenir de cette chorégraphie.
Oui. C'est pour ça, quelqu'un qui débuterait, j'ai dit comme moi, on ne peut pas sauter du premier coup, ça s'apprend, ça se travaille quand même. Ne serait-ce que la maîtrise de soi.
Oui, alors
c'est un petit peu comme la plongée sous-marine.
On démarre progressivement en fait, par exemple à 1200 mètres, en ouverture automatique. On apprend la position. Et puis au fur et à mesure, quand les exercices sont réussis, validés, on augmente progressivement la hauteur. Donc, quand on commence à avoir un peu de maîtrise sur la sortie en ouverture automatique, on va passer à 1500 mètres. Et puis là, on va autoriser la personne à partir avec une ouverture manuelle au bout de 10 secondes de chute libre.
Oui, parce qu'il faut apprendre à bien gérer son parachute. C'est lourd, un parachute ?
Alors, le parachute de débutant, oui, ça pèse une bonne douzaine de kilos. Ouais. Donc, les gens sont toujours un peu impressionnés au départ. Et puis, après, au fur et à mesure, on bascule sur des parachutes plus petits, plus légers, qui sont moins gênants sur le, dans les évolutions chute libre.
Virginie, ça tente pas ?
Pas trop, alors. Non, moi, je suis plus saut dans l'inconnu pour te nommer. Non, pour la recherche médicale, bien sûr. Mais non, non, ça ne me tente pas trop. J'ai pas un peu le vertige.
Oui, moi, pourquoi pas, on verra.
Sur les clichés, en fait, le vertige, moi, j'ai le vertige.
Alors justement, c'est une question que j'allais poser. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir peur et faire quand même du parachutisme? Parce qu'il y a des marins qui ont le mal de mer et ça ne empêche pas de faire de la voile.
Il y a plusieurs choses. En fait, le vertige, ça, c'est quelque chose, c'est quand on est rattaché au sol. Donc, en fait, à partir du moment où on quitte l'avion, enfin, on est dans l'avion et on quitte l'avion, c'est pas du tout un souci. Moi, ça me pose pas de problème d'être sous un parachute à côté de la Tour Eiffel. Mais par contre, monter en haut de la Tour Eiffel, c'est presque plus impressionnant que de faire le saut.
C'est ce que j'allais dire. Quand on est dans les nuages, dans l'avion, on n'a pas peur. Par contre, si on est dans le vide de la Tour Eiffel, le vertige, il est là.
Voilà. Ouais. Donc, j'ai jamais fait de saut à l'élastique, par exemple, et ça ne me tente pas du tout.
Oui. Voilà.
Et la grande différence, en fait, ce qu'il faut s'imaginer, finalement, c'est que sauter en parachute, faire de la chute libre, c'est un peu comme nager dans l'eau. On est dans un fluide, on est porté par l'air, il n'y a pas de vide, il n'y a pas vraiment de vide, en fait, on est sur un matelas d'air, et c'est là où la soufflerie, elle est intéressante, c'est qu'elle permet de reproduire la chute libre. Et donc, pour des personnes qui auraient l'appréhension, ça peut être bien d'aller à la soufflerie pour se rendre compte de ce que ça peut être. Mmh. Et ça limite le stress de se dire je sors d'un avion. Et aussi peut-être le stress lié à l'ouverture du parachute qui peut ne pas s'ouvrir correctement. Et c'est aussi une partie de la formation, c'est comment on fait si le parachute ne s'ouvre pas correctement.
Ah oui, eh oui.
Et quelles sont les réponses? Et les réponses, elles sont simples, elles sont connues, faciles à mettre en œuvre. Et puis une fois que le parachute est bien ouvert, comment on évolue, comment on le dirige? Parce que c'est aussi toute une partie du saut, il n'y a pas que la partie chute libre. Il y a toute cette partie évolution sous voile qui peut être même l'essentiel du saut, c'est-à-dire qu'on peut sortir, faire une seconde de chute libre et déclencher tout de suite l'ouverture pour ensuite évoluer, alors tout seul ou à plusieurs, et venir s'accrocher les uns les autres, par exemple.
Et sur le sol, on arrive à combien?
Alors, on arrive doucement, je dirais. C'est vraiment tranquille. Que ça soit pour un élève qui va avoir un parachute école qui est vraiment surdimensionné et donc qui va arriver très doucement. À la limite, j'ai envie de dire, s'il n'arrondit pas ou très peu, ça va bien se passer. Et puis après, sur des voiles performantes, ça peut arriver très très vite, mais par contre, on arrive à faire des manœuvres où on tangente le sol et puis au pire, on se pose sur les fesses.
Oui.
Alors, comme les élèves.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un sport dangereux, un sport à risque?
C'est un sport...
Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents?
Alors, je vais... Il y a des accidents.
Oui, bien sûr.
Il y a assez peu, je dirais. Oui. On a des années où il n'y a pas d'accidents mortels. Le volume est très, très faible. Ça peut être aussi parce que des gens prennent, dans la recherche de performance, vont prendre des risques supplémentaires. Mais sur une pratique encadrée où on respecte les règles, en fait, c'est très sécurisé. La traumatologie, elle ressemble beaucoup, je dirais, au ski. Donc, c'est des traumatismes des membres inférieurs, typiquement. Ou les mains, les poignets, si on essaie de se rattraper en posant la main, ce qui est un mauvais réflexe. Globalement, faut pas voir ça comme un sport dangereux à partir du moment où on respecte les règles, comme toute pratique aéronautique. En fait, il faut rester dans
C'est surtout un sport très très mental, très cérébral. C'est surtout ne pas paniquer et respecter toutes les consignes. Exactement comme on disait, comme la plongée sous-marine, où il peut y avoir un accident si on respecte pas les normes qu'il faut respecter quand on descend sous l'eau.
Alors, la particularité, c'est qu'on est dans un cadre temporel qui est très court, en fait. C'est-à-dire qu'une chute libre, c'est 60 secondes. On déclenche le parachute et on n'a pas beaucoup de temps. En fait, le temps qui nous reste avant de toucher le sol, c'est une vingtaine de secondes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait une formation qui est très suivie, avec des entraînements sur les gestes de sécurité, par exemple, et une personne qui n'arrive pas à restituer le geste correctement. On va lui faire répéter, et il partira pas sauter tant qu'il ne saura pas le faire. Mmh. Et c'est peut-être la particularité, c'est que qu'on soit encadré par un ou deux moniteurs, qu'on saute à 4 mètres avec les deux moniteurs attachés, ou qu'on saute tout seul en automatique, finalement, c'est que si le parachute ne se déploie pas correctement, ben là, c'est à l'élève de tout seul de faire ce qu'il faut. Mmh, mmh.
Voilà. Alors, c'est un sport individuel, mais on l'a dit, ça peut être un sport collectif aussi. Hein.
Non, mais c'est, oui. Je dirais même carrément un sport
plus,
collectif.
Parce c'est que plus un sport collectif que... Ouais.
Dans l'avion, on est toujours une dizaine de personnes. L'avion standard, le Pilatus, on monte à 10. Donc, on est déjà à 10 dedans. On peut pratiquer, il y a des disciplines tout seul, et puis il y a des disciplines où, notamment en vol relatif.
Oui.
Aujourd'hui, moi, les records qui me tentaient quand j'étais tout gamin, à l'époque, dans les années 80, on était sur des records à autour de 100 personnes. Aujourd'hui, le record, il est à 400 personnes en l'air en même temps.
Ah ouais?
Voilà. Donc en sport collectif à 400 personnes, j'en connais pas beaucoup.
Ouais, ouais.
Voilà.
Y a autant de filles que de garçons dans votre sport?
Alors,
la parité, elle est respectée?
La parité, elle n'est pas respectée, malheureusement. Il n'y a pas de raison pour ça. Ouais. Ce n'est pas plus dur pour une fille qu'un garçon. On est tous à égalité, je pense, une fois à la porte de l'avion, face à notre stress et à ce qu'on arrive à en faire. Après, peut-être le côté casse-cou tente moins la jante féminine. On est aujourd'hui plutôt à une 30% de filles dans la pratique. En milieu étudiant, on arrive à monter un peu plus vers la parité, mais c'est pas évident.
Oui. Est-ce que c'est justement un sport de casse-cou ?
Eh ben non.
Non. Justement.
Ouais. Justement, en tant que moniteur, moi, la personne qui est casse-cou qui dit « moi, j'ai pas peur »,
c'est pas vrai.
C'est moi qui ai peur.
Oui, et c'est comme ça que les accidents arrivent d'ailleurs.
Enfin, ça peut être une source d'accident, oui, effectivement. Mm-hmm. On sait que la personne va moins faire attention aux limites. Et dès qu'on commence à jouer avec la limite...
Mmh. Et quand on est là-haut, dans l'air, on est comment?
On est bien.
Il y a une certaine jouissance, c'est ça.
C'est Air France qui a dit faire du ciel le plus bel endroit de la Terre.
Oui, c'est vrai.
C'est effectivement... Ouais. À mon avis, à moi, la vue est magnifique. Les nuages, le ciel bleu, l'aperçu qu'on peut avoir aussi quand on est en l'air, la vue d'ensemble... qui est magnifique, et quand on est au sol d'un seul coup
on a le temps d'apprécier malgré le fait qu'il faille quand même respecter les consignes de sécurité, faire attention, être vigilant. On attend quand même légèrement de dire c'est fabuleux ce que je vois.
On a le temps, déjà la montée en avion elle dure une quinzaine de minutes pour monter à 4000 mètres. On a 60 secondes en chute libre, donc si on n'est pas en train de faire des figures à d'autres personnes, on a le temps d'admirer. Et puis après, sous voile, une fois parachute ouvert, on a à peu près 5 minutes. Donc oui, ça laisse beaucoup de temps. Même quand on a quelqu'un qui nous guide par la radio, ça laisse vraiment le temps d'apprécier. Peut-être aussi pour certains d'avoir peur.
Oui.
Mais c'est aussi ça qui fait l'activité.
Olivier, les plus beaux panoramas d'Île-de-France ou de France, c'est où?
Il y en a plein.
On fait échapper belle. Hein.
Il y a une concurrence, mais je dirais les sauts en bord de mer sont toujours assez fascinants.
Ah oui.
Je pense à notamment le Mont-Saint-Michel, qui est le patron des parachutistes. Paris est bien. J'ai eu l'occasion de sauter, j'ai eu cette chance.
On a les autorisations, on peut.
C'est très difficile. Ouais. En fait, ça se fait plutôt sur des commémorations, typiquement le 14 juillet. On a eu les 200 ans du premier saut en parachute qui a été fait à Paris. Ouais. Et donc, à cette occasion, on a eu des sauts sur le champ de Mars.
Et il me semble qu'il y a eu une manifestation au mois de juillet cette année où il y avait des parachutistes qui sont arrivés au stade Charletti, me semble-t-il. Hein. Ouais.
Alors, j'ai...
Oui, si, je crois.
Oui,
ça,
je m'en rappelle. Moi,
devant le micro. Devant le micro.
Oui, donc oui, tout à fait. Il y avait eu cette manifestation là en juillet, juste un peu avant les Jeux Olympiques. Et tout à fait.
Ouais, ouais.
Alors, pour moi, celle-là, je n'étais pas au courant, mais il y en avait une autre qui s'est passée. Alors, je ne sais pas si c'est sur le Champ de Mars ou sur les Invalides.
Oui.
Donc, il y a des sauts tous les ans sur Paris. Mais c'est organisé en général par les militaires, en fait. Des militaires qui pratiquent, qui ont une pratique de type civil, qui vont sauter à 4000 mètres avec des parachutes de type L. Mais ce sont eux qui arrivent en général à avoir les autorisations pour pouvoir voler au-dessus de Paris et faire des largages.
Alors, c'était bien aux Invalides et c'était le 26 D'accord. juin dernier. Voilà. En effet, j'ai même les photos sous les yeux et c'était assez magnifique.
Et puis, vous n'en faites pas pour le Téléthon, des fois ? Alors, les démonstrations, là.
C'est possible. J'ai un club en Ile-de-France que je peux citer.
Oui.
Le club de Maison Lafitte qui a déjà, par le passé, fait des sauts de démonstration, en fait, à l'occasion du Téléthon.
Je salue les coordinateurs du 78, mais je pense que sur Paris, on n'a pas de club... en tout cas, pas pour la coordination parisienne, on n'a pas de club qui participe.
Paris, ça reste toujours très compliqué en termes d'autorisation, c'est ce que je dis. Il faut mettre les militaires dans la boucle. Et bon, j'ai des contacts, notamment les personnes qui ont sauté là, sur les Invalides. Mais bon, c'est des projets à monter. Je pense que ça se prépare longtemps à l'avance.
Donc, combien de licenciés actuellement?
Alors, en France, on doit être, je n'ai pas révisé mes chiffres, mais on doit être autour de 30 000 licenciés. Sur l'Île-de-France, on est à peu près un bon millier. Avec la particularité, c'est que tous les gens qui pratiquent d'avion, en fait, même s'ils sont licenciés en Île-de-France, ils vont aller sauter sur des centres hors Île-de-France.
Bah oui, parce que, comme on l'a dit, il n'y en a pas énormément. C'est un sport qui est cher.
Alors, c'est sûr que ce n'est pas comme le foot. Le prix d'un saut, c'est...
Mais on prend une licence au début.
Voilà, alors ça fait partie du coup. Le prix du saut, donc, c'est environ une trentaine d'euros sur un saut à 4000 mètres. Et puis, on a une licence assurance fédérale qui est obligatoire. C'est un sport qui se pratique dans le cadre d'une fédération. Les jeunes sont favorisés. La licence, elle est moins chère. Mais en fait, pour un pratiquant régulier, le coût du premier saut... en début d'année, ça va être la même chose que le coût d'un saut en biplace, donc à peu près dans les 250 euros.
D'accord. Voilà. Et la licence, c'est combien? C'est à peu près, non? Non. Alors, ça varie si on fait de la compétition ou pas, non?
Non, pas tellement. Non. C'est plutôt en fonction de l'âge. Les moins de 25 ans vont payer 72 euros et les plus de 25 vont payer 175.
D'accord. Et quand on prend une licence qu'on rentre dans un club, donc, si on veut faire la compétition, on peut en faire tout de suite ou on peut simplement garder le côté loisir?
Alors, c'est vraiment au choix des personnes. Moi, je sais que en tant qu'élève, j'ai eu un peu de mal au début, mais très rapidement, je suis allé vers de la compétition. On a des disciplines qui sont accessibles très rapidement. Et au niveau régional, on a facilement accès à des petites compétitions. On peut mettre les débutants assez rapidement dans la boucle. Et pour des gens qui font leurs deux premières saisons, qui sont un peu assidus, c'est assez facile de constituer une équipe et puis d'aller au championnat de France.
Et comment se passe une compétition? On est jugé, on est noté, tiens, comme le patinage?
Oui, alors comme le patinage, la particularité, c'est que forcément, les juges ne sont pas directement en l'air sur place pour les disciplines en chute libre.
Ils ont une télé, un écran.
Ça se faisait à une époque avec une longue vue, mais
aujourd'hui... Ils ont ça.
En fait, on a des personnes qui font partie des équipes et qui sont chargées de filmer le saut.
Ah oui.
Et qui ramènent donc la bande après pour ou la carte mémoire maintenant, pour le jugement. Et après, pour les disciplines sous voile, donc sur les figures, ce qu'on appelle le voile contact ou les voiles, les parachutistes viennent s'accrocher les uns les autres. Donc on a aussi une personne qui filme derrière. Et puis, les disciplines sous voile, mais plus au niveau de l'atterrissage, où on cherche à se poser de manière précise sur un point défini à l'avance, les juges sont directement sur place.
D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on juge en priorité? L'aspect artistique, technique, physique
Alors, c'est très variable suivant les disciplines. On n'en a pas parlé, mais on a quasiment une dizaine de disciplines.
J'allais poser la question après des disciplines,
Voilà. Ouais. Sur les disciplines phares, je vais faire des jaloux, mais sur le vol ratif où on fait des figures en chute libre à plat, à 4 ou à 8, ce qu'on va noter, en fait, c'est le nombre de figures réalisées dans un temps imparti. Donc on a des figures qui sont tirées au sort, et l'équipe qui fait le plus de points va mener la compétition.
En combien de temps on a le temps aussi?
Alors sur une discipline à 4, on a 35 secondes de chute libre à partir de 3500 mètres.
D'accord.
Et il faut faire le plus de points. Aujourd'hui, le record, il doit tourner autour de 5. plus de 50 figures sur D'accord. 35 secondes.
D'accord. Mmh. Et après, donc il y a quoi comme d'autres disciplines? Alors, discipline, est-ce qu'on est obligé de se spécialiser ou alors est-ce qu'on peut varier et passer d'une discipline à l'autre?
Alors, il y a des gens qui changent de discipline. Le problème, c'est que passer d'une discipline à l'autre, ça fait réapprendre toutes les bases. Il faut recommencer un peu du début. Mais en soi, c'est tout à fait possible. Ça demande des sauts. Voilà. Après, en termes de discipline, on a des disciplines plus artistiques, qui sont des disciplines un peu plus récentes, plus à la mode aujourd'hui, avec des figures un peu dans les trois dimensions, à l'opposé des figures dont je parlais à quatre à plat. Mm-hmm. Donc on a le freestyle, où c'est une personne un peu qui fait de la gymnastique avec quelqu'un qui filme. Et sachant que la personne qui filme a aussi un rôle esthétique en termes de prise d'image, doit se positionner par rapport à la personne qui fait ses figures. Mmh. On a aussi une autre discipline, c'est le free fly, où là, on a deux personnes qui font des figures entre elles, avec une troisième aussi qui va tourner autour et venir faire faire la prise de vue donc pour le jugement, et puis aussi apporter une touche artistique en termes de prise de vue.
D'accord. Mmh. Ouais. Donc tout ça, ça varie en fonction des différentes disciplines. Est-ce qu'il y a beaucoup d'injustices, fatalement, quand il y a un jugement humain?
J'imagine, en discipline artistique, il peut y avoir une part de subjectivité, oui, effectivement, de goût par rapport aux juges et puis aux enchaînements.
Et les carrières, elles sont longues en compétition?
Alors,
est-ce qu'on peut, par exemple, faire du parachutisme en compétition à 50 ans? Est-ce que c'est possible?
Non. Alors,
je m'en doutais.
On peut avoir des gens, c'est-à-dire que on va rentrer en compétition jeune et puis on va pouvoir y rester plus ou moins longtemps. Mais je dirais que, en général, au bout de 15 ans, en fait, pour avoir un haut niveau, aujourd'hui en France, on a beaucoup de médailles. Une des nations les plus médaillées, en fait.
D'accord. On est parmi les meilleurs pays de le sport, alors.
Voilà, tout à fait.
Quels sont les autres? Les Américains, les Allemands, les Suédois, non?
On a eu un peu les Russes à une époque. Aujourd'hui, les pays, notamment le Qatar, qui se développent.
Bon, oui. Ah bon,
qui viennent chercher des entraîneurs en France et puis développent leurs équipes nationales.
D'accord, ok. Alors, pourquoi pas un jour sport olympique? Faudrait le souhaiter quand même.
Mais
en cette année 2024.
Oui, on a tenté de promouvoir la soufflerie là, pour les Jeux olympiques. Le dossier était vraiment très bon, je pense, bien meilleur que ce qu'on avait pu avoir par le passé. Mais y a beaucoup de sports et beaucoup de concurrence pour rentrer dans dans l'olympisme. J'espère que pour Los Angeles, les Américains qui avaient un peu contribué à notre dossier pour le vol en soufflerie essaieront de rentrer à nouveau.
Et quand on est justement parmi les meilleurs Français, est-ce qu'on peut vivre de ce sport?
Alors, c'est compliqué. Ouais. En général, les compétiteurs, ce que je voulais dire, c'est qu'une carrière, elle dure 10-15 ans. Il faut savoir qu'il faut s'entraîner quand même au moins 15 jours par mois. C'est 15 jours de stage, plus la soufflerie aujourd'hui. Si on ne fait pas de soufflerie, on ne peut pas espérer être au niveau international, au moins pour les disciplines en chute libre. Donc en fait, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, en général, les gens sont moniteurs à côté.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir qu'on peut vivre aussi de ce métier comme moniteur en passant par les diplômes classiques, comme dans tous les sports.
Il faut bien du monde pour former les gens, justement. Mmh. Et puis l'autre optique, c'est de rentrer
à l'armée,
police, et puis d'être détaché le plus possible pour pratiquer le.
Ou avoir une grande société qui jouerait le jeu, quoi.
Voilà.
Ouais. Vous dépendez du ministère des Armées d'ailleurs, peut-être, ou pas?
Non, on dépend juste le ministère des Sports.
Ouais. D'accord.
Et puis c'est toujours un peu particulier, mais pour les avions, on dépend de la DGAC, quoi.
Et la fédération à laquelle vous êtes rattaché, c'est.
Oui. C'est la Fédération française de parachutisme.
Fédération française à part entière.
En tous les cas, il y avait eu un article sur les invalides sur la Fédération française de tir à l'arc. Donc, voilà.
D'accord, j'irai voir.
Voilà, ouais, je vous l'enverrai.
Merci.
Très bien, allez, on marque la première pause musicale. Ensuite, je l'ai dit, on va parler un petit peu MMA, puis Téléthon. Et ensuite, on retrouvera le point foot dans la dernière partie de notre ami Stéphane. Mais auparavant, donc, la musique avec un des parrains du Téléthon. Hein.
Voilà. Le parrain.
Ouais, le parrain. Allez, on y va.
C'est quoi le vrai? Qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ce rite sur mon visage? Pourquoi elles viennent cafeter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd. Placard fermé à double tour. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. C'est la vie, c'est la vie, la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie.
Toutes ses couleurs et ses parfums, ses roses d'amas, ses son jasmin, c'est comme son Liban qui s'efface. Qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour. Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse, fleurisse encore. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit donc. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie.
Voilà, émission que vous pourrez naturellement retrouver en podcast très rapidement, hein, dans quelques heures. Alors, je vous l'avais dit, on va aussi parler MMA avec un des représentants, je vous l'avais dit, de l'écurie de Mathieu Nicourt, donc Christopher Odona, que je salue. Bonsoir Christopher.
Bonsoir.
Donc, qui va combattre ce samedi, c'est ça?
Je combats samedi pour l'organisation Hexagone, c'est ça?
D'accord, ok. Alors, tu vas nous dire tout ça en compagnie de Benoît et donc d'Alexandre.
Bonsoir à tous.
Ouais. Alors, Benoît, il va combattre où? Il va falloir aller le voir où?
Ben, du coup, si vous voulez voir du coup Christopher aka O Monstro Odena, il faudra aller du coup à l'Hexagone 21 qui va se trouver à Évry-Courcouronnes ce week-end.
Dans l'Essonne.
Exactement. Ouais. Donc en Île-de-France, pour ceux qui habitent en Île-de-France, et ça va être, je pense, un très très grand show.
Alors parle-nous un peu du combat. Est-ce qu'il connaît son adversaire? Est-ce qu'il l'a étudié et...
Ben ça, je pense que Christopher, il n'y a que toi qui peux vraiment répondre à cette question. Est-ce que tu as bien analysé tes combattants? Je sais que tu es un homme de l'analyse.
Ouais, je l'ai analysé. Ouais. Bon, on n'a pas grand-chose sur lui, mais ouais, j'ai analysé. Après, j'ai analysé aussi ses coachs.
Oui, bien sûr.
Savoir comment ils combattaient aussi, tu vois.
Ouais, t'en rêves pas la nuit de...
Non, je vais jusqu'à là quand même.
Ouais.
Tu vois. Mais je me concentre plus sur moi. Moi, j'essaie d'être complet, donc après, j'essaie d'être prêt partout, donc à partir du moment où tu es prêt partout.
Ouais. Alors, comment tu t'es préparé pour ce combat? Ça fait combien de temps?
Ça fait un mois et demi.
Un mois et demi,
c'est 4 heures par jour.
4 heures par jour.
Ouais.
Alors, explique-moi un petit peu ton quotidien. Uniquement le sport de combat, un peu de footing, le régime, voilà, on fait attention au poids.
Et ben, c'est exactement ça. Footing, le matin, on fait le sport, on fait les appréhensions, la lutte, le grappling, la boxe thaï, l'anglaise. On fait un peu de tout, quoi. On varie toute la semaine. Et on se laisse un petit jour de repos et on part.
D'accord.
Ouais.
T'as combien de combats à ton actif?
Là, je suis à 2-0.
D'accord.
En professionnel.
D'accord, ok.
Ouais.
Bon. Et l'objectif, c'est naturellement d'aller chercher des titres?
La ceinture. Hein.
Ouais.
Là, on va viser la ceinture. Là, là on va essayer une victoire. Et je pense que peut-être encore un autre combat et on va chercher la ceinture.
Alexandre?
Ouais, moi, j'ai juste 2-3 questions à te poser, plus personnelles, tu vois, pour apprendre à te connaître.
Ouais.
Déjà, pourquoi au Monstro? Déjà.
Au Monstro, je suis fan de Thiago Silva.
Ouais, c'est ce que je pensais.
Compris. Ouais. Et puis, je pense que je suis un monstre dans la cage, tu vois. Donc, ça me va bien.
Ouais.
Ouais.
Ben, comme il l'a dit, le dernier combat qu'il a fait, tu l'as fait avec brio. Tu nous avais donné comme pronostic victoire au deuxième round. Et au final, tu as fini ton adversaire qui était brésilien d'ailleurs, tu l'as fini au premier round. Ouais. Et est-ce que là, ça va être la même chose ou pas?
Là, je dis encore deuxième round, tu vois.
Deuxième round encore?
Ah oui?
Ah, t'as parlé.
Moi, j'aime bien les deuxièmes rounds, mais en fait, avec l'adrénaline, je pense, et l'adrénaline, et tu sais, en combat, les gens, ils mettent des coups forts, tu vois. Donc, automatiquement, l'oxygène dans leur corps, il est un peu plus. Et je pense qu'ils se fatiguent un peu plus vite. Ouais. Donc, c'est pour ça que je finis au premier round, mais alors qu'en général, je vise toujours le deuxième.
Et puis, bon, tu vas avoir tout un public derrière toi, tu vois. Combien il peut y avoir de personnes
Alors, la capacité de la salle de combat à Évry-Courcouronnes, je ne la connais pas, je t'avoue.
Ouais. Je crois que c'est 3000.
3000,
c'est certainement 3000. Il me semble que tu as combattu, du coup, quand même dans une salle beaucoup plus grande, parce que la dernière fois, quand tu étais à Hexagone, c'était au Zénith de la Villette.
Du coup,
c'est une salle beaucoup plus grande et on a entendu vraiment qu'il y avait un public derrière toi.
Alors, justement. Tu vas avoir tous les supporters qui vont venir. Ça transcende?
Ouais, c'est magnifique.
Ouais.
Moi, je vis pour ça. Moi, j'aime le public.
Ouais, bien sûr.
Ouais. C'est ce qui me.
Ouais, on l'a ressenti pendant le combat. Tu as été assez généreux. Même lorsque tu es rentré dans la cage, tu as pris quand même un peu de temps pour saluer le public.
Ouais.
On a vu que tu as mis un certain intérêt à bien préparer ta présentation. D'ailleurs, tu n'es pas venu tout seul. Il y avait la malle avec toi.
Ouais, mon petit frère.
Voilà, donc ça fait plaisir. Donc, on voit vraiment que tu es bien entouré et que l'aspect spectacle, tu le travailles. Est-ce que c'est quelque chose que. Moi, j'ai l'impression du moins que tu le travailles. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais naturellement ou c'est qu'il y a vraiment. C'est réfléchi de se dire les gens, ils viennent. Pour du spectacle, je vais leur donner.
Moi, franchement, c'est pas réfléchi. Après, on aime toujours le show, tu vois. Et je pense que je suis mon âme, elle est comme ça, tu vois. J'aime faire le show.
C'est trop bien. Voilà.
Puis ça fait partie de ce sport aussi, un petit peu comme la boxe classique, traditionnelle.
C'est important.
Ouais.
Bah, on vient pour ça, non?
Oui, on l'a vu avec Tazen, là, dans son match.
C'est ça,
exhibition, là, l'autre
jour. Ouais, on aime le show, Ouais. Tout le monde aime un peu le show, à sa façon.
Une autre question aussi, parce que Mathieu Nicourt, c'est un ami de l'émission.
Oui.
Du coup, c'était pour savoir comment tu l'as rencontré, ta relation avec lui, ça se passe bien. Est-ce que c'est un bon coach déjà?
Ouais, c'est un très bon coach.
Attention, il nous écoute.
Très très bon coach. Très humain, j'aime l'humain.
Ouais,
et c'est pour ça que je continuerai avec lui, j'espère jusqu'à la fin de ma carrière.
Oui, il va être là, il va être là au combat.
Bien sûr. Il est dans mon coin tous les jours. Je suis obligé d'avoir le même coin tout le temps, moi.
Oui.
C'est ma base.
Ouais. Est-ce qu'il intervient beaucoup avant le combat? Est-ce qu'il parle ou au contraire, est-ce qu'il a le feeling pour savoir que...
Non, il n'intervient pas trop. Il me dit de faire ce que je sais faire.
Ouais.
Que je ne m'invente pas de vie, tu vois.
Mm-hmm.
Et normalement, avec les fondamentaux qu'il m'a appris, ça devrait le faire, tu vois.
Ouais. Et puis, c'est la notion de plaisir, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Hein. On kiffe.
Ouais, on kiffe.
Ouais.
C'est ça, c'est le
kiff. C'est le moment où il faut montrer ce qu'on sait faire, quoi, tu vois. C'est là. Parce qu'en vrai, de vrai, ce qui se passe dans la salle reste dans la salle.
Oui, bien sûr.
Tu vois que là, c'est aux yeux de tout le monde. Et...
là, ça va, tu dors bien, tu fais attention à ce que tu manges. C'est combien le poids actuellement, là?
Là, je suis tout de suite maintenant, je suis à 83 kilos, là.
Ouais.
Et je dois descendre en 77 vendredi.
Ah ouais?
Ouais.
Et c'est facile, et comme ça
Ouais, ça va le faire, ça va le faire, ouais. Ouais, j'ai l'habitude à le faire.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mange plus, on boit que de l'eau.
Bah, on essaie de réduire les calories, ouais. On court un petit peu, sans se fatiguer, tu vois.
En se couvrant bien,
tout voilà, ça. Voilà, avec les caouets et tout. On fait un peu de pao aussi. Comme ça, on suit bien. Et la dernière, le dernier jour, on essaie de faire les bains chauds. On appelle ça le cutting, là. Tu vois. Je vais essayer de perdre 3-4 kilos et puis voilà. Ça devrait aller.
Après, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est quand même bien entouré. On a eu l'occasion d'interviewer ton préparateur physique.
C'est ça.
Et il avait pris... Excuse-moi, j'ai oublié son prénom.
Adam
d'ailleurs. Adam Herman, qui avait vraiment pris le soin de nous détailler un peu le programme qui t'avait préparé. En fait, on voit que c'est rien n'est laissé au hasard. C'est... Tu le dis de manière simple, mais en fait, il y a un gros...
Non, déjà,
par moment, j'ai même l'impression que le travail de préparation, il est beaucoup plus intense que le travail technique, c'est-à-dire au niveau des combats, parce qu'il y a une vraie réflexion.
En fait, c'est ça le plus dur. Le plus dur, vraiment, c'est ça. C'est la préparation physique et le cutting. Hein. C'est ça le plus dur. C'est mental. C'est plus mental qu'autre chose.
Bien sûr.
Tes points faibles, tes points forts, seraient quoi dans la cage?
Moi, franchement, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis complet. Je m'entraîne tous les jours. Et en fait, si je fais 2 heures de boxe thaï aujourd'hui, demain, je ferai 2 heures de lutte. Et après 2 heures de lutte, ben, après, ça sera 2 heures de grappling, tu vois.
Donc en gros, vraiment, tu te concentres vraiment sur toi.
Voilà.
Ton pire ennemi, c'est toi, et ton meilleur allié, c'est toi.
Exactement.
Yes.
T'as tout compris.
Ah, okay.
Bon, donc, défaite inenvisageable.
C'est exactement
On l'espère. Ouais. Même.
Alors, tu seras présent, Benoît, là-bas
Ouais, et normalement, je serai présent avec Souleymane. On va couvrir l'événement.
Bien sûr.
Espère,
Paris FM, il sera.
On espère parler au nom du coup de la radio, apparemment Paris FM, de avoir la chance, du coup, d'assister à la victoire.
Oui.
Donc, nous, c'est ce qu'on espère. Et bien évidemment, on t'est donné qu'on est fan de ce sport. Donc, nous, on a tout intérêt à être présent.
Bien sûr. Alors, tu reviens après le combat, si tu veux. Tu peux revenir. C'est le 9 décembre, je crois.
Ouais.
Tu vas nous en parler.
Carrément.
Bien sûr. Pas de souci.
Et puis, après, si un jour il y a une ceinture, tu en avec.
Bien sûr.
C'est ce qu'on souhaite.
Monsieur Mendy, là, il va mettre autour de sa taille.
Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, merci.
Merci à vous.
On va croiser les doigts. Émission complètement multisport. Donc, vous allez laisser, tout en restant dans la salle, la place à nos amis du Téléthon. Moi, je voudrais, pendant ce temps-là, revenir sur le parachutisme. Vous avez des rendez-vous forts avec les écoles, par exemple?
Alors, au niveau régional, oui, on a justement le 13 novembre, là, on a fait une sortie avec le... on a une parachutiste qui est aussi professeur des écoles, et donc on a fait une sortie avec des élèves de Montfermeil.
Oui, d'accord.
Donc ça, c'est notre gros rendez-vous annuel. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on fait cette activité-là, et ça marche bien, quoi.
Très bien. Donc ça plaît bien, aux jeunes. Ça apporte de vocation, des fois?
Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt, je pense, pour faire un retour. Mais on espère, oui.
Très bien. Donc, vous restez avec nous. J'ai dit émission complètement omnisport. Donc, on va parler maintenant de ce qui va se passer pour le Téléthon. Donc, les 29 et 30 novembre prochains. Je vais saluer Virginie et Adrien. On a déjà entendu. Bonsoir, Adrien.
Bonsoir.
Voilà. Virginie, on a déjà entendu. Virginie, pourquoi le 29 et 30 novembre? Habituellement, c'est le deuxième week-end du mois de décembre.
Oui, mais cette année... Alors, normalement, c'est le premier week-end de décembre, sauf quand le 1er décembre tombe un vendredi ou un samedi. Dans ce cas-là, on décale au deuxième week-end parce qu'on ne fait pas de concurrence avec le SIDAction.
C'est le 38e, je crois, Téléthon.
C'est le 38e Téléthon. Et cette année, on a le 8 décembre, on a l'inauguration de Notre-Dame. Donc, France Télévisions...
Moi, je le savais, mais il fallait le rappeler. Quoi.
Bien sûr, France Télévisions va être, bien sûr, mobilisée par cet événement. Et on l'a su suffisamment en avance, ce qui nous a permis d'anticiper le Téléthon, au dernier week-end de novembre.
Alors, quel va être le menu copieux de cette édition, donc de cette 38e édition 2024, où, je l'ai dit, le sport va être très largement représenté?
Alors, le sport
peut-être
est toujours...
Peut-être même le MMA, il y a peut-être des activités MMA quelque part.
Alors, pas ma connaissance.
Oui,
à Paris, en tout cas, non. En tout cas, non. Mm-hmm. Mais pourquoi pas faire un... D'ailleurs, j'ai entendu que vous combattiez à Évry-Courcouronnes. C'est là où est le... Le Génopole, pourquoi pas faire un tournoi au profit du Téléthon, avec plaisir.
Alors, sur Paris, quels vont être les temps forts?
Alors, sur Paris, quels vont être les temps forts? On a, comme chaque année, les pompiers qui participent. Donc, cette année, ils vont nous faire un défi de... Ils ont fait un défi de grimper de corde l'an dernier. Cette année, c'est une autre brigade qui participe, enfin, qui participe depuis longtemps, caserne de la Nativité dans le 12e, qui va faire un défi rame. Ils vont, voilà, essayer de faire le...
Sur la Seine?
Non, 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 sur...
Ah bon, ah oui, comme ça, de la rame. De rame, ouais. Voilà. Oui, non, mais ils auraient pu faire un aviron sur la Seine. Hein.
Et ouais, puis, ils font toujours, là, plusieurs brigades participent, ils font toujours la traditionnelle Tower Run dans la BNF.
D'accord.
Donc, ils grimpent 18 étages en 2 minutes. Voilà.
D'accord, ok. Sinon, le défi, c'est quoi? C'est 24 heures de rame pour les pompiers?
Non, c'est une demi-journée. C'est une demi-journée. Ouais. Mm-hmm. On a aussi une association de trail, Team Trail,
oui,
qui va nous faire, là, pour le coup, 12 heures de grimper de marche de Montmartre, en relais. Mm-hmm.
D'accord.
Donc, on attend effectivement beaucoup de participants. Vous pouvez vous inscrire sur Team Trail pour justement participer et venir grimper les marches au profit du Téléthon. Chaque montée, c'est 1 euro ou 2 euros qui est reversé au Téléthon.
Oui, c'est ça.
Oui. Alors vous, ça se passe comment? Parce que bon, c'est par arrondissement. Vous coordonnez, vous êtes en coordination avec tous les arrondissements. Ça se passe comment? Et quels sont, j'allais dire, entre guillemets, les arrondissements les plus généreux? Tant au niveau de l'exploit sportif que sur l'argent.
Que sur l'argent. Bah alors, sur l'argent, on ne fait pas de compétition. Ça,
non, non, non. Mais, bien, mais bon.
Mais en termes
par nature, il peut y avoir des plus généreux.
Bien sûr. Bah, en termes d'investissement, je sais que le 13e, là où on se trouve, est très bien représenté, puisqu'on a plusieurs piscines, plusieurs associations sportives, plusieurs écoles aussi qui participent. Je pense à l'Université Paris-Cité, avec le BGAton, l'association du master de génétique là, de Paris-Cité.
Alors, justement, il faut rappeler, de toute façon, tout partout où il y a des drapeaux jaunes marqués Téléthon, c'est qu'il y a une manifestation.
Voilà. Oui, tout à fait. Et puis cette année, on aura la carte des animations du Téléthon sur le site Agir. Donc, vous pourrez aller voir dans votre arrondissement quelles sont les animations au profit du Téléthon qui s'y déroulent.
Mm-hmm. D'accord.
On attend sur agir.téléthon.fr. Ouais, ouais.
Et sinon, il y a d'autres arrondissements?
Bien sûr, on a le 16e arrondissement.
Ouais. Vas-y, t'es là pour ça, donc vas-y. Du tout. Ouais, ouais.
Non, non, on a le 6e arrondissement où effectivement, on nous a dit qu'on était chez nous et on est chez nous. On a un concert qui est organisé à la mairie du 16e le samedi 23 novembre à partir de 15h où on aura notamment la chorale Unisson qu'on va bientôt entendre et aussi la Roche-Valmont qui va venir chanter T'as le look coco au profit du Téléthon. On a le 9e, où on a effectivement pas mal d'animations sportives. Oui, le 13e, j'en ai parlé. Le 17e, qui participe beaucoup. Enfin bref, on a, grosso modo, tous les arrondissements parisiens sont bien représentés par beaucoup d'animations, effectivement sportives, comme tu le dis, culturelles aussi.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une mobilisation qui est forte de chaque année au niveau des associations? Parce que bon, est-ce qu'il y a certaines années où c'est un petit peu plus compliqué pour mobiliser pour les différentes associations?
En général, le Téléthon, on a un très très beau taux de renouvellement d'année en année. Je crois qu'on est à 80% de renouvellement. C'est-à-dire que les associations qui participent au Téléthon sont fidèles depuis des années. On a des associations à Paris qui participent depuis le premier Téléthon. Ah, je pense notamment au 17e arrondissement avec Philippe Guerre, que je salue, qui a son stade avenue de Saint-Ouen. Et lui, il participe effectivement depuis le premier Téléthon. Donc on a des associations, comme j'en ai parlé du 16e, l'OMS du 16e, avec, qui mobilise toutes les associations sportives du 16e, eux, ils participent depuis aussi une vingtaine d'années. Montmartre, je salue aussi Montmartre, l'association Montmartre à la Une. On en a combien, Adrien? 23, 24 Téléthons, je ne sais plus, mais c'est énorme. C'est, Michel Langlois, qu'on salue très très fort, il participe, lui pareil, tous les ans, il mobilise tout Montmartre aux couleurs du Téléthon, et ça fait 23, 24 ans, je pense.
Alors naturellement, le but c'est aussi de battre des records sportifs, mais aussi financiers, c'est quand même ça aussi.
C'est le but parce que, in fine, l'argent qui est collecté, il va aux chercheurs. Voilà, et ces chercheurs, ils ont besoin effectivement d'argent, puisque la thérapie génique, la thérapie cellulaire, ce sont des thérapies qui sont extrêmement coûteuses en moyens. Mais ce qu'il faut dire aussi, pourquoi il faut donner au Téléthon, c'est qu'aujourd'hui, on a des résultats incroyables sur des maladies qu'on croyait incurables. Ouais. On a notamment Sacha, qui est ambassadeur du Téléthon cette année. Sacha, il est atteint de la myopathie de Duchenne et on fonde beaucoup d'espoir sur un essai clinique dont il a pu bénéficier. On a, lors d'ailleurs, quand on a organisé notre Téléthon Merci, on a Frédéric Réva, qui est directeur de Généthon, qui est venu nous présenter en avant-première des vidéos du petit Sacha qui a pu bénéficier de cette injection de thérapie génique. Sacha, on le voyait sauter à pieds joints. on le voyait faire de l'escalade pour un enfant dont les muscles allaient se dégrader progressivement. Et lorsqu'on a organisé le lancement du Téléthon à la mairie du 5e fin septembre, Frédéric Réva nous a passé une nouvelle vidéo de Sacha, où Sacha court.
Ah oui.
Donc ce petit Sacha, il a pu bénéficier de cette injection il y a 2 ans, et on voit des progrès incroyables. Et donc effectivement, voilà, ce sont pour ces enfants, pour ces maladies qu'on arrive à soigner aujourd'hui, pour lesquelles on a des essais cliniques en cours qu'il faut donner. Je pense aussi à 2 petites ambassadrices cette année, Marley et Milan, 2 petites jumelles. Ces petites jumelles, elles ont une histoire incroyable. Elles ont pu bénéficier, parce qu'elles sont nées en Aquitaine, l'une des 2 régions avec l'Alsace, où on pratique le diagnostic postnatal sur l'amyotrophie spinale, qui est une maladie terrible, parce que dans sa forme la plus grave, elle condamne les enfants avant l'âge de 2 ans. Mmh. Et ces petites jumelles, elles sont nées dans la bonne région, en Aquitaine, et elles ont été diagnostiquées dès la naissance, et elles ont pu bénéficier de cette injection de thérapie génique dès la naissance, ce qui fait qu'elles auront très peu de séquelles de cette maladie, voire pas du tout. Voilà. La thérapie génique, tous ces essais qui sont développés par Généton, par ISTEM, par l'Institut de Myologie, ce sont des thérapies qui sauvent des enfants. On a des résultats incroyables et c'est vraiment pour ça qu'il faut donner pour le Téléthon.
Oui, alors on va rappeler, on peut donner ce qu'on veut, hein, on n'est pas obligé de...
Il n'y a pas de petits dons.
Voilà, ce sont des promesses de dons, hein, et après qui deviennent officielles au mois de mars, hein, je crois.
Alors oui, le temps qu'on... En fait, si vous voulez, les gens peuvent donner le week-end du Téléthon en appelant le 3637 ou en faisant un don sur téléthon.fr.
Donc surtout 29 et 30, le 3637, hein, c'est
voilà,
le numéro
le 3637. Dans... Ouais. Et puis, de toute façon, tout le monde est branché aujourd'hui, on peut aussi faire un don tout au long de l'année sur téléthon.fr.
Oui, parce qu'il y a des manifestations qui sont organisées en amont quand même de fin novembre. C'est quand même un petit peu... Ouais, c'est nouveau ça, non?
Non, c'est pas nouveau. Non. C'est-à-dire que vous pouvez organiser un téléthon quand
au
vous
mois de
voulez
mars,
dans
par
l'année.
Par exemple.
Vous pouvez organiser un téléthon en juillet ou en août. Il y a le téléthon des campings qui, depuis quelques années, remporte un franc succès. Ouais, dans les campings, vous avez un téléthon, c'est de l'été.
D'accord. Ouais.
En fait, ça dépend juste si vous remontez les fonds que vous avez collectés avant le 15 février, ce sera sur l'exercice précédent.
D'accord.
Après, ce sera sur l'exercice suivant. Voilà,
d'accord.
C'est juste une question d'exercice comptable. Bien entendu, la plupart des gens qui veulent organiser leur Téléthon, une animation sportive, une vente de crêpes au profit du Téléthon, préféreront le faire le week-end du Téléthon, puisqu'ils vont bénéficier effectivement des retombées de l'émission télé. Mais si, par exemple, dans une école, vous voulez organiser le Téléthon et que le week-end ne vous convient pas trop, si vous l'organisez en décembre ou en janvier, vous pouvez parfaitement le faire. Ça dépend vraiment, c'est vous qui êtes le maître de votre animation.
C'est vrai que c'est nouveau depuis quelques années, une dizaine d'années, je crois, maintenant, où on peut faire ça. Donc,
je n'étais pas encore à la FM il y a 10 ans, donc je n'ai pas tout l'historique.
Moi, j'ai connu les gens à la FM, donc c'est pour ça. Oui, 2024, année olympique, donc il y aura des sportifs qui vont être impliqués.
Bien sûr, il y aura plein de sportifs.
Ouais, avez déjà des parrains qui vont venir sur le site des lieux?
Cette année,
mais
en fait,
il y en aura certainement,
bien sûr.
On voit mal, par exemple, une fille comme Aurélie Aubert ne pas être présente sur un événement, quoi.
Bien sûr, et puis vous avez aussi, moi je pense aux sportifs paralympiques.
Oui, c'est ça.
Je ne me souviens plus de ce nom, mais ce jeune homme-là qui a gagné une médaille d'or, qui est concerné par une maladie génétique, où il y a des recherches qui sont faites par la FM Téléthon.
Oui, et même des grands sportifs qui ont fait les Jeux Olympiques seront sûrement présents, quoi.
Oh ce sera toutes les surprises de l'émission télé.
Oui. Alors, on va rappeler donc les dates.
29 et 30 novembre.
Oui, d'accord. 29, 30 novembre. Et puis, donc, Adrien, c'est facile, justement, vous allez vivre ça. Vous aussi, vous faites votre téléthon, vous faites hardcore. Hein. Il faut lutter contre le sommeil, quoi. C'est facile, ça?
Oui, c'est intense.
Oui.
Le téléthon, en soi, c'est un engagement qu'on prend au niveau de la coordination parisienne toute l'année. C'est... forcément un surengagement quand on arrive à proximité du week-end. Pas mal de soirées, pas mal de week-ends où on va échanger avec les organisateurs, voir comment est-ce qu'ils vont préparer leur animation, comment la promouvoir. Vraiment, c'est hyper enrichissant. C'est vraiment quelque chose à faire.
Et c'est ça qui vous a plu dans ce projet?
Ah, mais totalement.
Oui.
Au final, ça a été un petit peu du hasard, on va dire, au début. Parce que j'avais été démarché par le Téléthon il y a quelques années. Je suis revenu en voyant qu'il y avait toujours un besoin de bénévoles. Mmh. Et de là, on s'implique dans une équipe qui est très soudée, qui est très motivée, dynamique. Mmh. On est avec plein d'organisateurs qui ont forcément des tonnes d'idées. Ouais. Ça va, comme le disait Virginie, sur des écoles, on est sur du trail, sur de la cuisine aussi. Bah oui, oui, oui. Il y a vraiment de tout et c'est juste incroyable. Mmh. Pouvoir échanger avec chacun, voir la motivation qu'ils ont aussi pour faire les animations. Et la force qu'il nous apporte, c'est vraiment génial. Et j'invite toute personne qui veut devenir bénévole à s'engager dès que possible.
Oui, puis c'est un lien social à une époque où on a envie d'être généreux, quoi. On est à quelques semaines de Noël.
Totalement. C'est ouais. Vraiment pile le bon moment.
Mmh. Très bien. Bah, écoutez, merci. Puis vous viendrez nous en reparler donc, le 2 décembre. Hein, on aura une fourchette de résultats. Donc avant, naturellement, je l'ai dit, les résultats définitifs. Parce qu'on peut, on va le répéter, hein, on peut continuer à donner toute l'année.
On peut donner toute l'année et si vous voulez effectivement savoir dans votre arrondissement ou dans votre commune partout oui. En France, quelle animation.
Sur le site internet.
Voilà, le site internet agir.téléthon.fr.
D'accord, très bien. Allez, c'était Mika, donc le premier parrain de cette année. On va écouter un ancien qui vient pour la deuxième pause musicale. Allez, on y va.
J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas. Immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour. Je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeunes et dociles, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans. Et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur. Puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire. Monte les mers, fane les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent. Et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves. Fini les dix papas. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici bas?
Maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balaye le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balaye les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi, j'ai pas l'heure, tant mieux.
J'ai fait mon sac 100 fois, un jour on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pensais jamais, pourtant je devrais. Pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots s'il ne sert au devoir d'aimer? Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balaye le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balaye les regrets. Certains vieux, moi j'ai pas l'heure,
tant mieux.
Certains voudraient vivre vieux.
Moi je veux partir heureux.
Mon pari est fait.
Allez, avant la pachoute, et bien naturellement ce journal des sports d'un fou week-end. Et on commence naturellement avec l'actualité, l'événement du week-end, la victoire de nos Bleus face aux Blacks, qui étaient des All White d'ailleurs ce samedi, hein, 30-29.
Absolument, Philippe. Donc on commence ce journal des sports avec le rugby, comme tu l'as dit, et les résultats des Bleus face aux Blacks. Très belle victoire de nos Bleus, 30-29, avec un excellent Thomas Ramos, qui a marqué plusieurs pénalités. Donc,
comme d'habitude.
Comme d'habitude, ouais. Autre résultat important, victoire de l'Afrique du Sud contre l'Angleterre, 29-20. Énorme victoire de l'Écosse, 59-21 contre le Portugal. Victoire de l'Irlande, 22-19 contre l'Argentine. Et enfin, l'Australie qui atomise le Pays de Galles, 52-20.
Et puis, bah, l'autre événement de la quinzaine, c'était Vendée qui est parti des Sables d'Olonne le week-end du 10 novembre.
Ouais. Absolument.
Et déjà des premières casses.
Première casse, mais globalement, 8 Français sur 10, 8 Français dans le top 10, pardon. Sur le podium, donc Jean Le Cam, 3e, Sébastien Simon, 2e. Donc, c'est le Britannique Sam Goodchild qui est premier. Donc là, actuellement, à l'heure où on se parle, les skippers arrivent aux abords du Cap Vert. Donc voilà, on rappelle qu'on est déjà au 8e jour du Vendée Globe. Comme tu l'as dit, départ au Sables d'Olonne le 10 novembre.
Ouais, et il y avait une foule énorme. Hein, et puis on va rappeler que Jean Le Cam, c'est son 6e Vendée quand même. Hein. Mmh. Ouais. Alors, on approche aussi sur la fin de saison de tennis avec les finales de Masters hommes et femmes.
Absolument, et sans surprise, c'est le numéro 1 mondial Yannick Sinner qui remporte le tournoi en 2-7, 6-4, 6-4 contre l'Américain Taylor Fritz. Mmh. Chez les femmes, ouais. C'est l'Américaine numéro Coco 3 mondial Coco Gauff ouais. Qui remporte le Master contre la Chinoise Zheng Qinwen en 3-7, 3-6, 6-4, 7-6. Donc franchement, les favoris ont gagné, sans surprise, pas de surprise particulière.
Et puis fin de saison aussi, en moto.
Ah, voilà. Gros événement du week-end.
Et on connaît le dénouement. On connaît
enfin le dénouement. Fin de saison, donc c'est Francesco Bagnaia qui a maintenu le suspense, mais c'est Jorge Martin, l'Espagnol, qui remporte son premier titre mondial à Barcelone, puisqu'on sait que le maintien du Grand Prix était à Valence, parce que de base, le Grand Prix était à Valence, mais à cause des intempéries, forcément, il a été délocalisé à Barcelone. Mais en tout cas, Jorge Martin qui remporte le titre et au classement des constructeurs, c'est bon, ça on le sait depuis longtemps, mais c'est Ducati qui a gagné le titre. Grosse saison pour Jorge Martin. Qui a sans surprise remporté.
Écurie privée en plus. Hein.
Écurie privée.
C'était plus arrivé depuis Valentino Rossi.
Absolument. Deuxième Prima Pramac. Mm-hmm.
Et puis bah, en ski, ça va bien aussi.
Ça va très bien.
Il n'y a pas que nos bleus du foot et du rugby.
Non, deux Français dans le top 10. Ouais. Clément Noël qui remporte le slalom en 1 minute 53 et Steven Amiès en 1 minute 55 qui termine 6e. Donc nos Français sont sur une bonne lancée en slalom.
Donc c'était à Lévis en Finlande, on va rappeler.
Exactement, oui.
Voilà,
absolument.
C'était à Lévis en Finlande. Et puis on va au BHV, on finit par la rubrique basket hand volley.
Exactement. Voilà. Donc large victoire du Paris Basket 106-74, on en parlait tout à l'heure avec Vanessa contre Strasbourg. Mm-hmm. Belle semaine pour les Parisiens après la victoire en Euroleague contre Barcelone 103-87. Nanterre aussi remporte son match du week-end 98-77 contre La Rochelle. Au classement, Cholet leader, Paris 2e et Lyon-Villeurbanne 3e. Nanterre pointe à la 12e place. Mm-hmm. Chalon-sur-Saône et La Rochelle sont relégables.
Oui.
En handball, victoire du PSG 28-26.
Et, puis on va rappeler que quand même, il y avait la victoire contre Barcelone pour le Paris Basket.
Oui, j'ai rappelé 103-87 en Euroleague.
Ça, c'est super. Hein, non, mais il faut pas hésiter à.
Parce que Barcelone, c'est une super équipe.
Ah oui, c'est pour ça. Hein. C'est grande équipe.
Vraiment positif. Ouais. Absolument.
Allez, le hand.
Le hand, donc Paris, le Paris Saint-Germain qui remporte 28-26 contre le Pays d'Aix. Victoire importante de Créteil 36-33 contre Limoges. Et nouvelle défaite, malheureusement, on en parle toutes les semaines, Philippe, mais nouvelle défaite de Ivry, 34-22. Mmh. Là, c'était un match compliqué, c'était contre Nantes. Mmh. Au classement, Paris leader avec 20 points, Nantes deuxième, 18 points, Montpellier, Toulouse troisième avec 16 points, Créteil est 15e avec 6 points, et Ivry, malheureusement, dernier avec un petit point. Ouais. Chez les femmes, plus tôt dans la semaine, le Paris 92 a gagné son match contre Nice, 29-22. Les Parisiennes sont quatrième au classement derrière Brest-Bretagne, Metz et Dijon.
Oui, parce qu'on va rappeler que ça va s'arrêter pour le hand. Maintenant, il y a le championnat d'Europe qui commence prochainement. Et on espère que les filles du hand seront championnes d'Europe le 15 décembre.
Franchement, des bons présages.
Ouais,
présages. Ouais. On termine ce journal des sports avec le volleyball. Victoire du Plessis Robinson, enfin, la première de la saison. Première de la saison, 3-2 contre Montpellier. En 9 matchs, seulement une victoire, mais elle arrive un peu tard, mais au moins elle est là. Paris a perdu contre Cannes 3-1. Au classement, le Plessis Robinson reste dernier, mais revient donc à 2 points de Narbonne. Paris est 11e avec 7 points. Et chez les femmes, le Levallois-Paris a gagné 3-1 contre Vendeuvre-Nancy. Le club francilien pointe à la 3e place du classement.
Très bien pour ce journal des sports, donc une et nouvelle fois très très complet. Je suis sûr qu'elle veut nous parler de patinage.
Bah oui, tu parlais de Finlande tout à l'heure, c'est la Finlande, elle a porté bonheur à notre Français Kevin Imoz. Ouais. Il a terminé deuxième donc, du Grand Prix de Finlande à Helsinki, de bonnes performances dans l'ensemble. Et puis surtout, ça lui permet d'aller en finale, bah où, à Grenoble, sur ses terres, donc, puisqu'il est originaire de Grenoble. Donc c'est une très bonne nouvelle pour notre Français. Il a été devancé par le Japonais Yuma Kagiyama, vice-champion olympique et triple vice-champion du monde, qui n'a pas été parfait. Et troisième, l'Italien Daniel Grassol, qui sera un adversaire très sérieux au championnat d'Europe. Et puis en danse sur glace, il y a eu une surprise, puisque les Britanniques l'ont emporté devant les Canadiens qui ont chuté. Les Britanniques aussi, hein, ils avaient gagné contre Chuck Bates, les champions du monde, lors du skate américain. Donc ils seront des sérieux adversaires pour nos Français également. Attention à eux, parce que rappelons tout de même que la Grande-Bretagne, hein, l'Angleterre, c'est le berceau, hein, de la danse sur glace. Et puis chez les filles, c'était la japonaise Anna Yoshida qui l'a emportée devant sa compatriote Rino Matsuke et l'italienne Lara Anaki Gutmann. Notre française Laurine Chin est sixième. Chez les couples, c'était franchement une compétition assez chaotique où tout le monde a fait des erreurs, remportée par les Canadiens et derrière les Hongrois. Voilà, donc devant les Hongrois, c'était pas fameux franchement. Mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est ça. La semaine prochaine, on retrouvera à danser IMFA donc, sur la Coupe de Chine. Avant la finale, on espère qu'il va rejoindre Kevin et Mousse comme la saison dernière.
Très bien pour ce journal des sports, donc très complet avec Alexandre et Vanessa. On va finir et je vais saluer mon ami Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Philippe, ouais. Bonsoir à toutes et à tous.
Bon, comment ça va? On va mieux depuis que nos bleus du foot ont gagné comme pour nos bleus du rugby, Stéphane, hein, parce que vrai que ça a été une vraie purge. Hein, jeudi,
c'était un beau week-end bleu-blanc-rouge. Hein,
ouais, c'est ça.
On a vibré avec le 15 de France, ouais, contre les Blacks, et puis après on a apprécié la victoire de l'équipe de France en Italie.
Oui.
Donc, une victoire un peu inattendue, en fait, finalement. Et puis, un beau pied de nez de Didier Deschamps à lui qui termine une année 2024, durant laquelle je pense qu'il n'a jamais autant été critiqué que depuis qu'il est à la tête des Bleus, quoi. Et donc, il ferme un peu des bouches, comme on dit.
Oui, parce qu'on va rappeler quand même, hein, c'est vrai que Stéphane, on s'est beaucoup ennuyé jeudi soir au Stade de France. Bon, il y avait un contexte qui n'était pas très particulier, hein, 0-0 contre l'Israël. Mais c'est vrai qu'avec la victoire des Français contre l'Italie 3-1, d'abord, on s'apercevra que dans ce groupe, les Français ont gagné leurs 3 matchs à l'extérieur. Ils finissent premier et ils s'ouvrent la voie du Final Four, finalement, hein, avec cette première place, puisqu'ils devraient tomber soit sur donc les Pays-Bas, la Croatie, la Serbie ou le Danemark, ou éventuellement l'Écosse. Donc, ça sera plus facile que l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal, qui sont aussi qualifiés avec l'équipe de France.
Bah ouais, tout à fait. En plus, avec si ça avait été l'Allemagne, l'Espagne, oui, le Portugal, ça aurait été de toute façon avec un match retour l'extérieur.
Oui.
Donc là, on a les deux avantages dans le groupe. Non, je pense que c'est... faudrait peut-être éviter les Pays-Bas, mais sinon, pour être tranquille, mais normalement, ça devrait passer, quoi. Donc, bref, oui, c'est intéressant, quoi.
Même, oui, si c'est, et c'est tout gagnant pour cette équipe.
Ça ne reste qu'une compétition pour évoluer, faire progresser l'équipe, quoi.
Oui, et c'est tout gagnant pour cette équipe de France, hein, en plus, qui n'avait pas très bien commencé, justement, par une défaite 3-1 face à l'Italie au Parc. Donc, comme tu l'as dit, Deschamps et puis toute l'équipe de France, hormis les compteurs à l'heure, et sans Mbappé.
Sans Mbappé, sans Griezmann, ouais, sans l'espèce quoi, c'est assez intéressant quand même parce que c'est quand même assez intéressant parce que tout le monde annonçait quand même l'enfer total pour cette équipe de France qui est finie, qui a plus rien, qui a perdu trop vite des joueurs et tout. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être plus des talents comme Griezmann et Giroud notamment, mais bon, il y a quand même encore du beau monde. Et puis surtout, je pense que c'est aussi l'occasion pour Didier Deschamps de rappeler que c'est pas le dernier des entraîneurs, qu'il est plutôt vers les premiers et qu'il faut peut-être un petit peu plus le respecter quand même. Même si on n'aime pas tout, on n'aime bien sûr pas tout ce que fait Didier Deschamps, c'est clair, mais bon, quand on regarde le bilan, et alors surtout la cerise entre guillemets, la cerise sur le gâteau qu'on peut annoncer aux auditeurs s'ils savent pas déjà, c'est que si jamais l'Argentine qui reste sur une défaite au Paraguay, qui va beaucoup moins bien là ces derniers temps, si l'Argentine ne bat pas le Pérou dans la nuit de mercredi à jeudi, bon, normalement le Pérou, oui, est 9e
au
classement, ouais, donc des qualifications en Amérique du Sud, donc ça devrait normalement ils devraient arriver à les battre, mais si jamais ils les battent pas, l'équipe de France va terminer pour la première fois, ouais, depuis 23 ans une année en
première tête place
du classement FIFA, ah ouais, des meilleures équipes du monde, quoi.
Mmh. Ouais. Ah oui, avec une demi-finale à l'Euro, hein, même si ça n'a pas été très très brillant.
Voilà, faut pas oublier de le rappeler quand même. Bon, l'Argentine a un peu piqué du nez, puis bon, en tout cas, bon, a été une fois depuis 2001 La France avait été première au mois d'août 2018, après la Coupe du Monde, mais ça serait la première fois depuis 2001, donc, qu'elle finirait l'année en étant meilleure équipe du monde, quoi. Donc, c'est quand même assez juste, on peut juste dire que c'est quand même assez incroyable, au moment où jamais Didier Deschamps n'a été autant ballotté par certains médias, hein, heureusement pas tous, par certains médias, qui fait quasiment une des plus belles années du football français, en fait, quoi. Donc c'est assez paradoxal.
Oui, parce qu'on n'oubliera pas aussi quand même, là, même si c'était avec un autre entraîneur, la médaille d'argent du tournoi olympique quand même, hein. Donc c'est quand même voilà, entre oui, une demi-finale de l'Euro et une demi-finale olympique, c'est pas mal, hein. Pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Donc, ouais. Mais bon, on n'est jamais content. Donc, on nous aurait dit au mois de janvier, quand on avait perdu 2-0 contre l'Allemagne au stade de. En France, je ne sais plus si c'était déjà au stade de. Je sais plus où c'était. À Lyon, je crois.
Ouais, ouais,
non, pas à Lyon, c'était Italie. Ouais. En tout cas, quand on a perdu 2-0 contre l'Allemagne au mois de mars de cette année, on nous aurait dit, vous allez être vice-champion olympique, premier de votre groupe, et peut-être potentiellement, en tout cas, on va dire, même si, je le répète, hein, il y a peut-être 10% de chances que ça arrive, première équipe, première nation à la fin de l'année, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Bon, c'est vrai, on s'est embêté quand même
oui,
à l'Euro,
beaucoup.
Mais bon, faut pas tout avoir.
Voilà, donc on va quand même rappeler le classement définitif, hein, parce qu'auparavant l'Italie avait battu la Belgique 1-0 et que l'Israël a bien fini quand même cette compétition en battant la Belgique 1-0. Donc la France qui s'impose avec 13 points mais un goal average de plus 6, devant l'Italie 13 points mais goal average de plus 5 pour les Italiens qui sont quand même qualifiés mais qui tomberont sur soit l'Allemagne, soit l'Espagne ou soit le Portugal. La troisième c'est la Belgique à 4 points mais moins 8 et quatrième l'Israël donc 4 points mais l'Israël qui est aussi non je crois qu'elle est à moins 8 l'Israël et la Belgique a un goal supérieur à moins 2 ou voilà.
Donc, en tout cas c'est, ouais. C'est sûr qu'on peut aussi constater bon en élargissant peut-être un petit peu au-delà même de la France, c'est qu'on a quand même l'Angleterre donc qui va revenir en Ligue A alors qu'elle était descendue en Ligue B et puis la Belgique qui touche quand même le fond quoi. C'est assez incroyable quoi. Donc pour l'instant ils ont l'air de vouloir s'entêter avec l'entraîneur que au demeurant j'ai apprécié beaucoup quand il est arrivé à l'Euro, mais là c'est vrai que c'est quand même assez pitoyable. Et la Belgique qui évite donc la relégation en Ligue B uniquement à la différence de but.
Oui, la différence de but, c'est moins 2 et moins 8 pour les Israéliens. Ouais. Allez, comme on n'a pas eu le temps de le faire la semaine dernière, je voudrais qu'on parle un petit peu de la Ligue des Champions. Hein. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite lors de cette quatrième journée. On va rappeler la victoire de Monaco à Bologne 1-0, de Brest au Spartak Prague 2-1. Le nul plutôt sympathique de Lille à domicile devant la Juventus Turin 1 partout. Et par contre, la défaite plus inquiétante du Paris Saint-Germain devant l'Atlético de Madrid au Parc 2-1, Paris qui a une nouvelle fois manqué d'efficacité. Donc Monaco pour l'instant est 3e avec Brest, hein, ils ont 10 points à égalité, 17e Lille 7 points et 25e Paris Saint-Germain 4 points. On commence à avoir peur un petit peu pour le PSG, Stéphane, en Ligue des Champions.
Bah, c'est clair maintenant, je pense qu'on peut être un petit peu inquiet, mais d'un autre côté, je pense que par exemple, je vois bien je vois tout à fait le Paris Saint-Germain capable d'aller gagner à Munich, par exemple.
Oui.
Peut-être plus facilement ou moins difficilement que de battre l'Atlético de Madrid. Mm-hmm. Est-ce que c'est inquiétant? Bon, peut-être aussi des années comme ça. Faut aussi
c'est le manque d'efficacité qui est quand même inquiétant. Hein. On l'avait vu contre le PSV Eindhoven, on le revoit contre l'Atlético de Madrid. Ça a été tiré par les cheveux contre Bologne. Et puis bon, il n'y avait pas photo contre Arsenal, donc c'est un petit peu inquiétant.
Contre Gérone.
Oui, oui, le match aller.
Maintenant, après, effectivement, c'est inquiétant. Bon, c'est inquiétant sans l'être. Quoi. Je veux dire, c'est parce que, quoi, je ne sais pas si c'est. Je ne veux pas dire que Paris Saint-Germain va passer à coup sûr. Hein. Bien sûr que non. C'est très compliqué, mais ça, on le savait au moment du tirage au sort. Avec un tirage au sort très, très, très compliqué. Quoi, tu vois. Et ce qui, aujourd'hui, a vraiment mis mal le Paris Saint-Germain, des pires des résultats qu'ils ont faits, je pense, c'est le match nul au Parc des Princes contre le PSV Eindhoven, qui est le pire résultat. Parce qu'après, bon. le match Paris Saint-Germain Atlético de Madrid, vous pouvez le rejouer peut-être 10 fois, au pire ça fera encore 0-0, mais ça fera pas forcément un 0 pour les Espagnols. Donc c'est maintenant le Paris Saint-Germain marque beaucoup de buts en championnat.
Oui, et paradoxalement du mal en
qui savent marquer des buts. Ouais. Donc c'est pas et comme disait je sais plus qui j'ai entendu, effectivement le PSV Eindhoven, est-ce que le PSV Eindhoven est beaucoup plus fort que Lens ou que Marseille bien sûr, ou que Marseille par exemple ou d'autres clubs de Ligue 1 classés dans le haut du tableau. Donc je pense que on dit des fois il y a tout qui va mal, c'est vrai que tout va mal et en plus de tout aller mal, c'est un groupe très compliqué parce qu'effectivement c'était pas l'année où fallait pas battre le PSV Eindhoven à domicile, quoi. C'est sûr que c'était points qui sont précieux. Bon, c'est vrai que contre Gérone c'était un peu pareil. Ouais. Maintenant c'est de la Ligue des Champions, hein, donc tu as des équipes, l'Atlético de Madrid, je ne parle même pas, qui viennent, qui mettent 3 autocars devant le bus, mais c'est des grandes équipes qui ont l'habitude de jouer les grands championnats et ils le font mieux que ne peut le faire Rennes, Brest ou Auxerre quand ils vont venir au Parc des Princes, quoi. C'est évident.
Alors, en Ligue Europa, pour cette 4e journée aussi, hein, on est à mi-parcours, bah, le score de la semaine, c'était 2-2, hein, le score de la soirée aussi, puisque Nice Twente 2-2, Offenheim Lyon 2-2, Lyon qui est 9e avec 7 points, alors que Nice, les carottes sont cuites, 31e avec 2 points.
Voilà, tout à fait. Maintenant, toute proportion gardée, on pourrait presque dire que le parcours de l'Olympique Lyonnais est plus inquiétant que celui du Paris Saint-Germain. Parce que pour une équipe comme Lyon, se faire battre à domicile par c'est Besiktas, hein, c'est
ouais,
ça
ouais,
et puis se faire revenir, rejoindre à la 96e minute en Allemagne contre une équipe Offenheim qui, je crois qu'il y a, je me demande s'ils n'ont pas changé d'entraîneur là, parce qu'ils n'ont pas des bons résultats. Donc, c'est pas non plus glorieux. Maintenant, effectivement, après, c'est pas le même genre de compétition. Mais c'est vrai que c'est plus excitant. Maintenant, c'est vrai que le Paris Saint-Germain passera peut-être pas. Pourquoi ? Parce que c'est tombé l'année où ils ont un groupe super difficile. Et puis ils font des contre-performances pour des équipes moins, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins bons. Moi, je pense que Paris peut gagner à Munich et Paris peut gagner à Stuttgart.
Oui.
Et va jouer aussi à Augsbourg.
Oui, et puis ils ont Manchester City aussi, hein, à jouer.
Ouais, ça, ils reçoivent Manchester City, voilà. Ouais. Mmh. Donc là, ça sera très compliqué contre Manchester City, je pense. Mais par contre, je sens bien l'équipe tout à fait capable d'aller gagner. D'aller gagner à Munich. Là, ça sera pas pareil ça sera pas une attaque défense.
Très bien. Allez, on parle des féminines très très brièvement, hein, puisque on va rappeler que Lyon a gagné à Rome 3-0 avant son match retour, donc cette semaine. Donc ballotage plutôt favorable pour les Lyonnaises. Et puis en championnat, le derby entre Lyon et Saint-Étienne a aussi tourné à l'avantage de Lyon, mais beaucoup plus largement pour les féminines, 11-0. On va rappeler que le Paris FC a battu Strasbourg 4-1 et que le PSG s'est imposé à Reims 2-1. Victoire de Fleury Mérogil devant le Havre 2-0. Donc Lyon en tête avec 22 points, devant le PSG 21 et le PFC et Dijon 3e avec 17 points.
Voilà, bon, on peut déjà dire maintenant que le... Bon, il y aura de toute façon, comme maintenant c'est nouveau, hein, donc il y aura des play-offs, hein, on le sait, ce sera comme l'année dernière. Donc l'intérêt du Paris Saint-Germain, c'est de jouer, de terminer dans les deux premiers. Mais même pour le Paris Saint-Germain, comme on a déjà eu l'occasion d'en parler, je pense que cette année, d'après moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, très en dessous de l'Olympique Lyonnais. Mais paradoxalement, il leur suffira de battre Lyon au match retour pour être déjà première de la saison régulière, quoi. Donc tout est encore jouable.
Très bien, Stéphane, merci. On va simplement dire qu'il y avait un 7e tour de Coupe de France, hein, que quelques clubs de Ligue 2 sont tombés à la trappe. La Ajaccio, Rodez, le Paris FC, et oui, battu au tir au but par Quevilly-Rouen après un match de 1 partout, battu 4-2 au tir au but. Par contre, les autres clubs sont passés, et puis qu'en Ile-de-France, il reste Versailles, Bobigny, Aubervilliers, Neuilly-sur-Marne et Drancy. Par contre, il n'y a plus aucun club essonien, puisque Fleury-Mérogis, Lina Montlhéry, les Ulis, Bretigny et le club de Paris 15 ont été éliminés. Voilà.
Ouais, très bien. Fait.
Voilà. Merci Stéphane, rendez-vous la semaine
Allez,
prochaine.
Merci, à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde.
Merci, bye bye, salut. Voilà. Et puis, on va finir à nouveau, vous voyez, cette émission bien dense. Je voulais savoir, l'équipement est cher pour le parachutisme. Est-ce que c'est vous qui les fournissez?
Alors,
les parachutes, c'est le club, mais vous, vous fournissez l'équipement et on peut le trouver où?
Alors, en général, quand les élèves arrivent, sont débutants, on prête le matériel. Enfin, c'est une location, hein, ça coûte en général une dizaine d'euros. Mais après, un parachute neuf, oui, c'est presque entre 8 et 10 000 euros.
Et ça, on est tout... Non, ça, on ne peut pas l'avoir, on n'est pas obligé de s'acheter, si?
Alors,
parce que, ouais, c'est une
au début,
quand, même.
Quand on ne saute pas énormément, le mieux, c'est de louer. On a l'avantage en France, c'est qu'on peut facilement louer du matériel, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Mm-hmm. Mais après, pour des gens qui ont des gabarits particuliers,
oui,
ou pour ouais. avoir des, certains types de parachutes plus performants, il y a un moment où il faut passer par l'achat de son propre parachute.
Ouais, on l'adapte comme une paire de skis, quoi.
Hein? Alors, la partie... harnais du parachute, oui, ouais. on peut la choisir sur mesure pour qu'il soit bien adapté au corps. Mmh. Après, la possibilité, donc le montant que je disais, c'est pour un parachute neuf, mais en fait, un parachute d'occasion, ça marche très très bien. Et c'est un budget qui est quand même beaucoup plus abordable. Ouais. Quoi.
Et l'équipement qu'il fournit, est-ce qu'on le trouve partout? Est-ce qu'on va dans les commerces de sport? Ou est-ce qu'il y a des magasins spécialités?
Spécialisé. Alors, plutôt des magasins ouais. spécialisés, oui. c'est-à-dire que les combinaisons, typiquement, ouais. c'est quelque chose qui est fait sur mesure. Moi, c'est peut-être la première fois que j'ai eu des vêtements sur mesure. C'est ma première combinaison pour sauter. Et ça, il y a des fabricants spécifiques au milieu qui sont faciles à trouver. Mmh. Et une combinaison, finalement, c'est pas très cher. Je dirais pour du sur-mesure, entre 300 et 400 euros, vous avez une belle combinaison ouais. toute neuve.
D'accord. Et ça peut durer plusieurs années. Hein. Sauf si on est jeune, on grandit, mais on peut les revendre.
Voilà. Ouais. Alors effectivement, pour les jeunes qui commencent à 8 ans, c'est sûr qu'ils vont avoir quelques combinaisons quand ils vont arriver à l'âge adulte.
Très bien, bah, écoutez, merci. Voilà. Hein, vous voyez, émission très dense ce soir. Je voulais vous dire, si on veut venir vous rejoindre, donc vos clubs, oui. vous avez un site internet pour Alors, s'inscrire et après on fait suivre aux différents clubs.
En fait, le mieux, c'est d'aller sur le site de la fédération, ffp.so.fr. Il y a la liste de tous les clubs en France. Vous pouvez choisir le plus proche de chez vous. Le site est très complet. Il y a toute une présentation des disciplines, des méthodes d'enseignement. Et voilà.
Et en 30 secondes, président, c'est une tâche exaltante, passionnante.
Ça demande beaucoup de temps, oui, mais ça, oui. c'est très gratifiant aussi, oui. Oui, de voir les gens sauter, progresser, faire de la compétition. Pour certains, même changer de carrière et devenir ouais. moniteur. Enfin,
très bien.
Très bien.
Merci Olivier, merci à Alexandre.
Merci.
On te réécoute dans Au bout du foot avec Kaladji.
Hein. Absolument.
Voilà, tout à l'heure. Merci Vanessa, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis Virginie, bon Téléthon.
Merci Philippe, voilà. 36 Allez, 37.
Voilà, et merci donc à Jason pour avoir été à la technique ce soir. Dans un instant, mon ami Eladji et toute l'équipe pour Au bout du foot, on va encore aller plus loin dans l'actu du ballon rond. Belle soirée à toutes et à tous. Et puis on termine avec Unisson, c'est ça hein
voilà. C'est ça, Unisson voilà. qui participe au Téléthon depuis de nombreuses années.
Allez, belle soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Like I've been awakened, every rule I had to break it.
never gonna shut you out.
Everywhere I look between now,
and